Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bienvenue dans l'émission culturelle la plus écoutée de France. Dans un instant, mais oui, nous ferons connaissance avec le nouveau talent du polar français, Olivier Norek, lieutenant à la PJ de Seine-Saint-Denis et qui désormais en disponibilité. Il publie Sur Tension, un livre saisissant de réalisme que Bernard Lehu vous offrira au 32-10. Le nouvel album de Benjamin Biolay, Palermo Hollywood, est un voyage de grande classe au cœur de Buenos Aires. Le chanteur nous le présentera au micro de Steven Bellery. Nous irons au musée des Beaux-Arts de Lyon pour visiter l'exposition Autoportrait de Rembrandt au selfie en compagnie d'enfants à la fin du parcours peuvent participer à un atelier pour faire leur autoportrait. Reportage à suivre de Gauthier Delon-Bugard. Et puis vous ne le connaissez peut-être pas encore, il s'appelle Monsieur Fraise, il est humoriste et c'est un gros coup de cœur de Monique Younes.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, jetons tout d'abord un œil sur le palmarès RTL Express des ventes de livres.
Oui, je sais que vous aimez ça, Yves.
Oui,
alors, numéro
parce qu'il y a tous les livres que vous nous proposez chaque semaine.
Numéro 1, La fille de Brooklyn, de Guillaume Musso, bien sûr. Mémoire de fille, encore un titre avec
deux
filles, d'Annie Ernaux, se hisse en deuxième position. Et en attendant, Bonne Jungles, notre chouchou ici, le grand prix RTL Lire d'Olivier Bourdeau, se classe troisième. Palmarès complet à retrouver dans l'Express.
Et un peu plus loin dans ce classement des meilleures ventes apparaît Olivier Norek, le nouveau talent du polar français. Il publie son troisième livre, Sur Tension, chez Michel Lafon.
Oui, alors Olivier Norek avait été la révélation de l'année 2013 avec Code 93, un polar saisissant de réalisme qui a pour toile de fond le 93, le 9-3, autrement dit la Seine-Saint-Denis, département miné par la délinquance et son terreau, la misère. Dans un deuxième roman tout aussi réussi, Territoire, Olivier Norek dénonçait la collusion entre certains élus et les caïds de banlieue pour acheter la paix sociale. Jamais 203, on retrouve dans Surtension, son enquêteur, le capitaine Victor Coste, est toujours en Seine-Saint-Denis, bien sûr.
Avec le même réalisme.
Ah bah oui, plus que jamais. Et pour une bonne raison, vous l'avez dit dans les titres, Yves, tout à l'heure, Olivier Norek est donc lui-même flic depuis une quinzaine d'années, lieutenant à la PJ de Seine-Saint-Denis. Il est désormais en disponibilité pour se consacrer entièrement à l'écriture. Mais le terrain, il connaît. D'où ces accents criants de vérité dans ces enquêtes. Sur Tension s'ouvre sur une plongée terrifiante dans l'univers carcéral, la prison comme rarement décrite dans un polar français.
Alors c'est une prison dont j'ai dû inventer le nom, tout simplement parce que je ne raconte que la vérité et ça se rapproche bien trop de la vérité. Ce ne sont que des faits réels. Par exemple, je raconte au début l'histoire d'une personne qui se met le feu dans sa propre cellule, ce qui arrive régulièrement, les suicides.
Dans le jargon, on appelle ça le barbecue.
Le barbecue, oui. Et nos pauvres surveillants de prison vont prendre la lance à incendie, la tirer jusqu'à la cellule pour remarquer qu'en fait, la lance à incendie s'arrête 50 cm avant la cellule.
Le tuyau n'est pas assez long,
il n'avait jamais été testé.
Ça s'est passé.
C'est une myriade d'anecdotes que je raconte et elles sont toutes vraies.
Et, oui. Et dans cet enfer pénitentiaire, incroyable. Vous allez faire la connaissance de pensionnaires que vous ne serez pas prêt d'oublier et qui vont bénéficier d'un scénario d'évasion inédit, incroyable. Là aussi, vous n'avez jamais lu ça dans un polar français. On n'en dit pas plus, bien entendu. Et le capitaine Coste et ses hommes sont sur les dents.
Je voulais que mes flics soient complètement dépassés par cette enquête. Et tout ça est dû à cette jeune fille, Alexandra, qui va décider de faire sortir son frère de prison, la prison la plus dangereuse de France. Et pour le faire sortir, elle va penser à une évasion, mais une évasion intelligente. Sans violence, sans hélicoptère ni explosion. Une évasion qui, malheureusement, va aussi faciliter la sortie de prison de 5 ultra dangereux criminels. Et nos flics ne vont pas comprendre pourquoi ils ont 5 criminels qui sortent en même temps et comment ils vont réussir à les traquer les 5 et à les interpeller les 5. Donc voilà, effectivement, cette équipe va être amenée à son point de surtension parce qu'ils vont se retrouver en face d'une enquête à 5 têtes, d'une enquête hydre.
L'hydre qui avait 7 têtes.
Oui, bien sûr. Enfin, avouez que 5 ici, c'est déjà pas mal non plus. Outre le scénario magistral déployé par Olivier Norek, ce qui fait donc l'intérêt de Surtension, c'est ce côté quasi-documentaire. Mm-hmm. Un exemple édifiant parmi d'autres, dans l'argot des délinquants de Seine-Saint-Denis, les téléphones portables utilisés sous une fausse identité s'appellent un
Paul Bismuth,
le nom d'emprunt de Nicolas Sarkozy, pour échapper aux écoutes quand il appelait son avocat, Olivier Norek.
Oui, malheureusement, c'est authentique. Vous savez, les délinquants regardent la politique, eux aussi. Et ils regardent aussi ces affaires de Paul Bismuth. Pour nous, chez les flics, Quelqu'un qui prend une ligne téléphonique à un faux nom, c'est généralement pour monter un coup. Voilà, on va pas réfléchir plus loin. Bon, apparemment, je vais pas aller moi non plus loin. J'ai envie de pas trop avoir de problèmes, même si en fin de compte, ça me fait beaucoup rire puisque je l'écris. Oui, les gamins commencent. Avant, ils appelaient ça des portables de guerre, et maintenant, on en entend dire que les portables à usage unique pour monter un coup, bah, c'est un Paul Bismuth. Et la phrase dans le livre, c'est que ils ont retrouvé dans ce politique dans la tourmente presque un frère d'armes.
Et oui, il comme ça, il est cash,
oui, hein, assez cash, oui,
et il n'hésite pas à balancer des vérités qui dérangent dans ses polars comme en interview. Dans Surtension, il n'est pas très tendre pour les avocats.
Ah bon. Le seul problème que j'ai, c'est que pour approcher le plus possible la vérité, on est une team, on est une équipe. Il y a les policiers, il y a la justice et normalement il y a les avocats. Et l'avocat, si par exemple il a une information qui pourrait prouver la culpabilité de son client, il n'est pas obligé de la présenter. Moi, je trouve ça très, très compliqué. Chez n'importe qui d'autre, moi, je serais tenté d'appeler ça de la complicité. Là, c'est le fameux droit à la défense. Alors, je sais que je vais me récupérer les foudres des avocats pénalistes. Bon, j'en ai pas vraiment grand-chose à faire, c'est pas bien grave. Je trouve ça juste dommage, sur ce point-là, qu'on n'aille pas tous dans la même direction.
Qu'en pensent de ces polars, les anciens collègues du lieutenant Norek?
Bah, sans doute un peu plus de bien que les avocats. Apparemment, ça ne se passe pas trop mal.
J'ai eu l'honneur et le plaisir de recevoir plusieurs messages de policiers qui m'ont dit « Quand on lit tes bouquins, on est fier d'être flic ». Si je devais avoir qu'une seule critique bienveillante, ce serait celle-là que je choisirais. Je suis parti de ce métier en étant encore amoureux donc, de ce métier, des gens qui le font. Et j'ai envie de présenter des personnages solaires, des flics qui sont l'oxygène des romans, à contrario, à mon sens, de trop de romans où ils sont malheureusement un peu trop maltraités. Les flics sont aussi mon primo lectorat, c'est-à-dire que je leur refile mon bouquin avant de le passer à Michel Lafon pour leur demander justement, est-ce que l'intrigue tient? Est-ce que l'enquête est parfaite? Parce qu'il faut qu'il n'y ait aucune erreur. Et si en plus, à la fin, je réussis à faire en sorte qu'ils ne puissent pas savoir qui est l'assassin avant que je le révèle moi-même, alors je me dis que ça devrait aller pour le lecteur et que je peux le présenter aux éditions Lafon.
Alors comment le flic Olivier Norek a troqué le flingue pour la plume?
Eh bien, c'était plutôt mal parti. 5 sur 20 au bac français.
Ouh.
Vous voyez, il ne faut jamais désespérer.
Non.
Et parce que malheureusement, ça s'est mieux passé par la suite.
Tout est venu complètement par hasard d'un concours de nouvelles par un site féminin qui s'appelait auféminin.com avec des sujets assez girly, assez filles. La première fois où j'ai dit je t'aime, j'ai perdu mon smartphone dans le métro. Quand je suis arrivé pour récupérer le troisième prix, parce que j'ai eu la chance de gagner le troisième prix, ils ont été surpris de voir que non seulement j'étais pas une femme, mais en plus que j'étais flic dans le 93 et lieutenant de police. Et une chasseuse de talent, Claire, m'a dit écoute, si tu réussis avec cette sensibilité à nous parler de ton quotidien de flic sur le 93, alors il est possible qu'on ait quelque chose d'un peu neuf. Et c'est comme ça que j'ai créé cette famille de flics ultra humaine dans un univers assez compliqué et chaotique que peut être le 93. Mais je rappelle que le 93 n'est véritablement pas que cet univers-là. C'est d'abord un département qui a mon cœur parce que c'est un département laboratoire dans lequel il peut se passer des choses magnifiques. Et je préfère vraiment un 93 un peu enfant turbulent à un département musée comme Paris.
Étant personnellement touché, je me permets de faire remarquer à tous nos lycéens qui préparent leur bac français qu'avec un 5 sur 20, on ne finit pas forcément auteur de romans policiers
voilà.
À succès.
Donc ça n'est pas une incitation au relâchement pour les candidats au bac, bien sûr. Alors, Olivier Norek, vous l'avez compris, le nouveau talent du polar français. Son livre Surtension au pluriel est publié chez Michel Lafon.
Et nous vous faisons avec grand plaisir gagner Surtension si vous répondez à la question de Bernard.
Très simple. Dans quel département Olivier Norek a-t-il été flic?
Qu'est-ce qu'il est gentil, ce Bernard Lehu.
Réponse au 3210.
Oui, hein, j'ai oublié mon... réponse au 3210. Voilà. Et tout cela marqué par un jingle qui nous annonce les audiences. Je vois Isabelle quelque peu occupée.
Non,
avec son
je suis ravie.
Bon, alors allez-y.
Je suis ravie, mais j'ai juste mes yeux. Donc, Grey's Anatomy est en tête, mais une petite tête, si j'ose dire. Moins de 4 500 000 téléspectateurs et 19% du public sur TF1. Le vrai succès est pour le monde de Jamy sur la 3.
Ah,
les animaux, quasiment 4 millions de téléspectateurs et 18% du public sur la 3, nettement plus de ménagères encore. Donc, je suis vraiment satisfaite. Et en troisième position, le téléfilm Rose et le soldat sur la 2, 2 400 000. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup médiatisé. 2 400 000 téléspectateurs, moins de 10% du public sur France 2. Recherche appartement ou maison qui remplaçait Super Kids. C'était une rediffusion, hein, donc moins de 2 300 000, c'est logique. Et moins de 10% du public sur M6. Et côté TNT, c'est W9. Oui. Et W9, donc sur la TNT, 735 000 téléspectateurs pour Bus 657, un film.
Vous pouvez me redire dire satisfaite.
Satisfaite, voilà. Et plus encore.
Vous le saurez encore plus dans quelques instants.
Ce qui prouve que les animaux à la télévision s'intéressent, et que ça justifie un magazine.
Mais oui, quand c'est bien fait, évidemment. Comme c'est mignon.
9h09.
Ouais. Ce petit chaton, je l'emmènerai bien à Buenos Aires. On va retrouver dans quelques instants Steven Bellery et Benjamin Biolay pour son dernier album. A tout de suite, restez avec nous.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Merci d'écouter RTL Musique avec l'événement de la semaine, hein, le retour de Benjamin Biolay. Après le décevant Vengeance et un hommage à Trenet, le chanteur revient en forme avec Palermo Hollywood. C'est son 7e album. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce disque est en fait une déclaration d'amour à Buenos Aires.
Oui, capitale de l'Argentine, l'un des endroits préférés de Benjamin Biolay. Il en avait fait une chanson sur son double album La Superbe. Il en fait cette fois tout un disque. Palermo Hollywood, c'est un quartier de Buenos Aires. C'est aussi la chanson d'ouverture. La chanson-titre en forme de générique, une balade en taxi, les premières odeurs d'un album audacieux, un voyage sonore d'une grande classe, Benjamin Biolay a voulu capturer l'âme de Buenos Aires.
J'avais envie de faire un album hommage à cette ville que j'aime tant. En tous les cas, de raconter ma vie là-bas, ou mes sensations, mes sentiments là-bas. Et il m'a paru très vite évident qu'il fallait le faire là-bas. C'était pas la peine de chercher midi à 14h, c'était sur place ou rien. C'est pas du tout une obsession nouvelle, c'est un vieux coup de foudre même. En général, lors d'un coup de foudre, on a tendance à déifier l'autre. Et peu à peu, on se rend compte qu'on a peut-être un peu exagéré. Et avec Buenos Aires, c'est l'inverse. Plus je la découvre, plus je la retrouve, plus je la redécouvre, plus j'aime cette ville, quoi. Ces immenses paradoxes qui je trouve me ressemblent un peu. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi.
Quatorze morceaux dans ce nouveau Biolay, autant de polaroïdes, d'instants volés, parfois mal éclairés, parfois touchés par la grâce, me disait Benjamin Biolay. Voici l'un des temps forts de ce disque, la chanson s'appelle La Débandade.
J'ai connu le grand amour, quelquefois, vu si souvent le petit jour s'allonger sur les toits de Paris. Fait des affaires, eu mon chemin de croix. Jamais, j'ai dit toujours, j'ai dit va-t'en, reviens un jour, la chamade, remorazade, tu es en cascade, la débandade.
Je ris en entendant cette voix grave. Disque, bah oui, disque après disque, Benjamin Biolay s'est largement imposé comme l'un des auteurs-compositeurs majeurs de sa génération.
Oui, à 43 ans, Benjamin Biolay creuse son sillon dans une chanson impressionniste, sombre et mélancolique. Biolay s'affirme sans s'édulcorer. Il est détenteur d'un style, d'un phrasé. Benjamin Biolay livre une partition d'une richesse musicale dingue. Ce disque, il l'a imaginé de manière cinématographique.
J'avais vraiment envie de faire une espèce de bande originale sans qu'il y ait de film autour. C'était peut-être la toute première pulsion. Là, c'est le genre d'album qui m'a pris par derrière, si j'ose dire, qui m'a dit maintenant on y va, alors que j'avais pas prévu. Ça arrive de temps en temps. Ce qu'il y a de plus beau, c'est de me dire que cette passion que j'ai depuis tout petit pour la musique, elle est toujours intacte, quoi. C'est un petit monde, un petit micro Disney. De toute façon, il n'y a pas de fast pass et il n'y a pas d'autres invités. Donc...
Le cœur en sang et la vue sur la nuit. Et la claque du vent, et la gifle du bruit. Le cœur en sang, comme le goût de la vie, a changé récemment, comme un goût de mépris.
La chanson « Pas sommeil », clin d'œil à son insomnie chronique. La plume de Benjamin Biolay est toujours aussi subtile, les mots s'effleurent, s'entrechoquent parfois dans des successions de courtes syllabes. « Je ne peux pas me passer de toi, tu ne peux pas non me priver de toi », lance-t-il dans un titre. Biolay amateur de bons mots, mais la priorité c'est leur musicalité.
C'est des paroles, je ne suis pas poète, je suis parolier. Les mots ils sont faits pour marcher avec ma musique. Il m'arrive de raturer des phrases qui avaient une belle gueule poétiquement, mais qui sonnaient mal et... À la fin, c'est toujours le musicien, le compositeur qui gagne. Si ça chante pas bien, c'est pas question de garder cette phrase. Elle reviendra peut-être plus tard.
Ouais. Alors, Buenos Aires est au centre du disque, mais le fil rouge, en fait, c'est un instrument, Steven.
Oui, le clavecin qui colore toutes les chansons de Palermo Hollywood.
Tendresse à mes héros, hémisphère sud à mon monde. Pas plus de gaz que de goût.
Ben oui, ça c'est Morricone hein, qui l'a inventé, cette façon d'utiliser le clavecin de manière très new age, avec beaucoup de réverbération et des notes très simples. Mais c'est Morricone, je lui rends hommage très souvent dans ce disque.
Pas facile à apprivoiser cet instrument, je crois, d'ailleurs.
Parce que j'avais un clavecin argentin. Je pense que c'était un ancien truc qui a été bricolé. Il y avait une touche sur deux qui marchait pas, mais c'était jamais la même. C'était très drôle, ça, vraiment très drôle. J'ai jamais vu un instrument qui m'ouvrait si peu les bras que ce clavecin-là. Il était beau, il était magnifique, il était pas en bleu. Et tout, mais il sonnait vraiment terriblement. Du coup, j'ai joué des notes que j'aurais pas joué parce que les notes que je voulais jouer à la base, elles marchaient pas. Donc voilà, mais c'est ça que j'aime dans la musique aussi. Quoi.
Je ne peux pas non me passer de toi, me passer de toi. Tu ne peux pas non me priver de toi, me priver de toi.
Miss Miss, chanson à double sens sur la fin de la croyance. Au fil des titres, Benjamin Biolay se met dans la peau d'un DRH pas très humain, sample le poète Borges ou un commentateur du match de foot Argentine-Angleterre lors de la Coupe du Monde de foot en 1986. Il évoque une brûlure d'ego dans une chanson et dresse en filigrane un autoportrait loin de l'image qu'il peut dégager.
Ben oui, je suis tellement loin de l'homme que j'aimerais être et que j'aspire à devenir. Je suis encore tellement en jachère, en chantier et tout. Il n'est pas question d'éprouver la moindre once d'autosatisfaction, je pense.
Vous dites souvent qu'on a une image très différente de celle que vous êtes vraiment dans la vie. Je pense aux chanteurs tristes, aux chanteurs mélancoliques.
C'est très possible que mon image soit complètement brouillée, voire absurde, mais c'est très compliqué à endiguer. D'ailleurs, chaque fois que vous cherchez à endiguer, vous vous remettez un petit peu plus dans le pétrin. Quoi. Donc, le chanteur à texte un peu noir qui chante pas trop fort, et ben, il fume, il est provocateur et tout ça. Ben voilà, c'est une culture française, ça. On sait bien de qui ça vient. Quoi.
Et de partout dans la nuit de France.
Palermo Hollywood, le nouvel album de Benjamin Biolay sort demain. Il sera aux Nuits de Fourvière à Lyon le 17 juin et tourné à la fin de l'année. Et il m'a confié qu'il y avait déjà le deuxième volume de Palermo Hollywood. Il est tout prêt, il sortira à la fin de l'année.
Dites-moi, c'est sublimement orchestré. Là, je viens d'entendre le violon. Alors, ça, c'est une des signatures de Benjamin Biolay. Merci beaucoup, Steven Bellery. Et bien, justement, direction Lyon maintenant et le Musée des Beaux-Arts avec cette exposition Autoportrait de Rembrandt au selfie. 150 œuvres retracent l'histoire de l'autoportrait de la Renaissance à nos jours. Peinture, sculptures, photographies, divers arts graphiques sont représentés. Et pour attirer le jeune public, le musée propose des visites ludiques avec notamment des ateliers où les enfants peuvent réaliser leur autoportrait. Gauthier Delombugard, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes glissé dans l'une de ces visites.
Oui, effectivement. Et le parcours commence dans une grande salle du musée avant l'exposition. Les enfants âgés de 5 à 6 ans s'assoient en tailleur et écoutent Florence, médiatrice en charge de la visite.
On va faire un grand voyage, là, ensemble, parmi des autoportraits, puis on terminera par notre propre autoportrait. Vous allez expérimenter, essayer aussi de tracer votre visage.
Puis chacun reçoit une fiche sur laquelle quelques œuvres sont reproduites. Les enfants doivent alors reconnaître les vrais tableaux au mur, sorte de petite chasse au trésor. Mm-hmm. Florence n'hésite d'ailleurs pas à prendre des exemples concrets pour expliquer le travail des peintres.
Est-ce que vous avez déjà fait votre autoportrait en photographie ? Vous savez, ça s'appelle un selfie, en fait. Les selfies, c'est très rapide, alors que là, pour une peinture, le peintre, il a mis très très longtemps.
À la fin du parcours, les petits visiteurs se ruent sur les crayons de couleur. Il est temps pour eux de se dessiner.
Alors le principe, Gauthier, c'est en fait d'appréhender l'art par le jeu et la pratique.
Exactement, Yves. Les enfants sont sollicités en permanence par la médiatrice avec des questions sur les tableaux, sur la peinture ou tout simplement sur des activités.
On n'est pas uniquement dans l'observation. L'idée, c'est de permettre
une approche assez vivante, assez directe et ludique en même temps.
Il y a aussi un autre groupe d'enfants, les 7-9 ans, qui eux passent une partie de la visite dans l'atelier. Ils réalisent également leur autoportrait, mais avec des pinceaux. L'Enaïs, 7 ans, tire la langue en appliquant la peinture. Il est très concentré.
On a un miroir et puis comme on se voit dans le miroir, on peut essayer de le remettre sur la feuille. On colorie les cheveux et puis ensuite on fait les yeux. Et...
Tu veux mettre quelle couleur sur tes yeux ?
Bah marron, parce que mes yeux ils sont marrons.
Et le résultat n'est pas forcément au rendez-vous pour tout le monde. Amal, 9 ans.
Je trouve qu'il est raté. La forme de la tête, il y a plein de trucs que je trouve qui ne sont pas bien. C'est parce que j'ai souvent fait mieux et j'aime pas mettre la couleur sur les dessins. Je travaille plus tôt dans le noir et blanc quand et avec ma prof.
Et malgré la déception d'Amal, le jeune public est conquis et les parents aussi, comme cette maman.
Ça leur permet non seulement de découvrir les œuvres d'art en les regardant, mais aussi de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. C'est quelque chose que j'apprécie énormément.
Au-delà du jeu, l'exposition permet de faire découvrir l'art de l'autoportrait de Rembrandt à Andy Warhol. Ludmina est conservatrice au Musée des Beaux-Arts.
Qui dit autoportrait aujourd'hui renvoie à l'une des préoccupations, l'une des pratiques contemporaines qui fait florès, le selfie forcément. Et il s'agit de montrer comment du 16e siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 21e, les artistes ont porté leur regard sur eux-mêmes à travers ce genre de l'autoportrait.
L'art de l'autoportrait de Rembrandt au selfie, c'est donc à découvrir jusqu'au 26 juin au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Merci beaucoup,
c'est
Gauthier de Jean-Bucard. Alors, vous adorez.
C'est une passionnante exposition en France actuellement, celle du Musée des Beaux-Arts de Lyon, vraiment.
Bon, je peux dire merci quand même à Gauthier.
Mais on lui dit tous merci.
Voilà, de Jean-Bucard, hein, on est bien d'accord. Dans quelques instants, vous nous faites découvrir Monsieur Fraise.
Habite à Lyon, d'ailleurs.
Il habite à Lyon ?
Oui.
Les sucres ou pas ?
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Monique Younes, vous avez une nouvelle passion, paraît-il, pour un humoriste. Il s'appelle Monsieur Fraise. Fraise avec un Z.
Oui, mon histoire avec Monsieur Fraise, je vais tout vous raconter, a commencé en janvier dernier. Mm-hmm. Je reçois une lettre sur laquelle était collée Bonne année en caractère d'imprimerie et une photo d'une coquille Saint-Jacques. C'était signé Monsieur Fraise. Quelques jours plus tard, un calendrier arrivait sur mon bureau avec un post-it manuscrit. Chère Monique, merci de trouver 6 juin l'agenda de travail de mon fils qui fera sa rentrée au Théâtre de l'Archipel à Paris. C'était signé Madame Fraise qui avait pris soin d'entourer en rouge toutes les dates en question. Et le troisième envoi était le carnet scolaire de Monsieur Fraise, un carnet authentique mais pas brillant, des notes nettement en dessous de la moyenne, des appréciations de professeurs allant de scandaleux. Ah, il se moque du monde en passant par aucun goût à vaincre ses faiblesses. Bref, Monsieur Fraise doublait sa sixième. Et Monsieur Fraise semble garder depuis la sixième le goût de ne pas vaincre ses faiblesses, puisque sur scène, il apparaît hésitant, tremblotant, en polo rouge et pantacourt bleu, essayant d'appeler en catimini Michel, son ingénieur du son, pour lui dire qu'il s'est trompé de musique pour l'ouverture du spectacle. On ne sait pas si l'ingénieur du son s'appelle Michel, mais il suffit simplement à Monsieur Fraise de l'appeler, ça dure 10 minutes, pour que la salle soit pliée de rire. Monsieur Fraise est un phénomène. Il campe un personnage maladroit, naïf, susceptible, totalement asocial. Il n'a d'ailleurs pas l'intention de progresser dans la société, ni même de faire avancer son spectacle.
Heureusement, j'ai la présence.
Il fait quoi sur scène ?
Il est là. Et on est ébahi. Il lui arrive avec beaucoup, beaucoup d'hésitation de raconter que ce n'est pas un métier facile d'être sur scène puisqu'il faut rester debout tout le temps. Alors, Monsieur Fraise estime qu'il a encore beaucoup de progrès à faire. Il a d'ailleurs tenu compte des conseils de quelques grands professionnels.
Hé, à un moment donné, il y a un professionnel, il m'a dit, le plus important dans un spectacle, ah oui, c'est le rythme. Le rythme. Heureusement que j'ai de la mémoire. Il faut que pendant tout le spectacle, les gens ils se disent oh là et, Mais qu'est-ce qu'il fait? Hein? Rien? Ah bon? Encore? Oh là là.
Mais ça peut pas durer une heure et demie.
Ah mais moi, c'est au-delà de l'imaginable. Monsieur Fraise est un virtuose du rien et se permet tout. Physiquement, il cache de très grandes possibilités et nerveusement, c'est un véritable champion. Il joue avec nos nerfs. Mmh. Quand il tourne les pages de son catalogue énumérant les super discounts promotionnels pendant 10 minutes, alors vous hurlez, soit de rire, soit de rage, comme bien entendu la caissière de ce grand magasin s'appelle...
Monique, 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 Monique. Non, 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 Monique. Fabienne, appelle-moi Monique. Monique, appelle-moi Monique. Fabienne, 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 appelle-moi Monique. Monique, Monique, non, Monique, non. Ne m'appelle pas Monique. Parce que c'est pas mon prénom. Non. Appelle Monique, Monique. Appelle-la Monique. Mais parce qu'elle s'appelle Monique.
Alors après c'est le tour de Laurent, enfin oui. Voilà. Monsieur Fraise a aujourd'hui 41 ans. Il donne ce genre de spectacle depuis 15 ans, mais à son rythme, sans compromission, n'écoutant que sa maman. Et encore, en 2011, certains s'en souviennent, il a participé à l'émission « On ne demande qu'à en rire » sur France 2. Et arriver à imposer 5 minutes de silence dans une telle émission, ce n'est pas un exploit, c'est le Golgotha, et il l'a bien monté. Et en 2012, il fait un carton à Avignon. On l'a supplié de revenir, mais le salon de l'auto du spectacle, comme il l'appelle, ce n'est pas son truc. Devant l'insistance des invitations, il y retourne l'année suivante, mais pour placarder dans toute la ville des affiches annonçant que M. Fraise fait relâche. Le spectacle de M. Fraise est une des plus impressionnantes que j'ai vu depuis vraiment longtemps. Pas de message, pas de politique, pas de démagogie. On se demande avec quoi il arrive à nous faire rire autant. La réponse appartient à chacun de ceux qui se rendront les jeudis, vendredis et samedis au Théâtre de l'Archipel à Paris.
Merci pour l'invitation, Monique Younès. Dans un instant, vous saurez si vous avez gagné sur tension. Publié chez Michel Lafond, le dernier roman policier d'Olivier Norek.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mais dans quel département Olivier Norek a-t-il été flic, Bernard Lehu ?
Le 9-3, la Seine-Saint-Denis.
Ben voilà, si vous nous avez appelé au 32-10, vous avez gagné sur tension qui paraît au Michel Lafond, aux éditions.
vous le connaissez bien, c'est pour ça.
Aux éditions Michel Lafond. Chez Michel. Voilà.
Dites-moi,
oui.
Yves.
Allez-y.
Dans quelques jours, c'est le 69e Festival de Cannes.
J'ai retenu générique.
Il se déroulera sous le soleil de Méditerranée, évidemment, comme tous les ans. Mais cette année, vous, auditeurs d'RTL, vous y serez peut-être en famille. RTL vous invite donc en famille à Cannes pendant le festival pour assister à l'avant-première aussi officielle du film événement de Steven Spielberg, le BGG, le bon gros géant. La foule, les stars, le tapis rouge, les flashs des photographes.
Il y a même Anthony Martin et Stéphane Boutsock, vous les verrez en vrai.
Oui,
hein.
Oui,
moi je vous le dis.
Ah ben si ça se trouve, vous serez juste à côté d'eux dans la salle, parce qu'on vous propose d'aller à Cannes donc en famille. Alors attention, pour gagner ce voyage exceptionnel avec le bon gros géant, rendez-vous lundi dans Laissez-vous tenter sur RTL.
Suspense. Je peux vous dire que c'est un très beau voyage et j'espère vraiment que vous gagnerez à ce jeu et qu'on vous fait un très très joli cadeau. Et c'est la plus belle salle de cinéma du monde, le Festival de Cannes. Bonjour Julien.
Mes amis de l'info, bonjour. Soyez les bienvenus. Eh bien écoutez, dans une seconde, je vais vous présenter Armand. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'Armand sur l'antenne d'RTL. Et Armand, il lui arrive quelque chose, il a besoin qu'on l'aide. Alors moi, je vais vous souhaiter une bonne matinée. Reposez-vous bien, faites-nous une super matinale info demain matin. Ciao, ciao.